RCF.
Régulièrement, les instituts de sondage publient des enquêtes sur le moral des ménages. Pessimisme, inquiétude, peur de l'avenir arrivent en tête de ces études qui ne donnent pas le moral à ceux qui les reçoivent en pleine figure et en plein cœur. On a parlé de société dépressive, la génération des 20 ans semble elle-même désabusée et l'avenir ne les fait plus rêver. Comment expliquer un tel désarroi et comment sortir de cette sombre ambiance pour vivre la réalité, un réel humain avec ses peines mais également avec ses richesses. Cette question sera au cœur de la demi-heure que nous allons passer ensemble en compagnie de Colette Combe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, vous rencontrez beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui viennent se confier à vous dans votre cabinet. Ce sentiment de découragement, vous le rencontrez ?
Oui, très souvent, dès la première séance, c'est changer d'angle de vue qui va surprendre et en même temps donner du courage. Parce que le même événement, par exemple, je pense hier, quelqu'un qui me disait à 26 ans, qu'est-ce que je regrette d'avoir fait une tentative de suicide à 17 ans, j'ai ce passé derrière moi, je l'oublierai jamais, en lui disant, mais ce que vous êtes maintenant, le courage que vous montrez maintenant, la détermination dont elle m'avait aussi parlé, peut-être c'est grâce à ce moment de rencontre de quelque chose de lourd et de sombre, du désespoir rencontré et authentiquement rencontré, naît l'espoir.
Vous avez souhaité partir de l'étymologie du mot « courage ».
Oui, parce que le mot qui maintenant, quand on dit courage à quelqu'un, c'est presque, ou quand on dit les courageux, c'est presque comme si on dit qu'est-ce qu'il est travailleur. C'est pas du tout le sens de l'origine. Le mot cœur est dans le mot courage. Et comme on disait l'ombre et l'ombrage, ou l'herbe et l'herbage, on disait le cœur et le courage. Comme Rodrigue a-tu du cœur, c'est-à-dire de la force d'âme, de l'ardeur, du vif. Et même au début, le mot au début, il veut dire désir. Alors, on voit que, en fait, notre société, ça n'est pas étonnant que si le découragement est là, c'est qu'au niveau du désir, il y a quelque chose qui presque se trouve en panne de la force de désir qu'il faut et presque aussi d'un autre sens qu'a le mot encouragement qui, au départ, est. Donner de l'encouragement, c'est être avec de la colère, là, désirer pour l'autre avec colère, avec rage, quelque chose et le pousser à sortir le meilleur de lui. Donc, cet abattement, c'est l'absence de toute cette vitalité des forces vives que sont les énergies de chaleur, d'ardeur et même de colère ou de rage.
Donc, à vous écouter, la vie même est en danger, en tout cas l'être est touché là actuellement. On le voit chez les jeunes, hein, beaucoup des 18-20 ans sont complètement bloqués, n'ont pas de désir, n'ont plus de rêve.
Je pense qu'on leur a fait une sorte de lavage de cerveau d'une part et d'autre part qu'ils ont vu des parents courageux au sens travaillant trop, pas assez vifs, vivants et avec de l'attention, de l'écoute. Ils ont beaucoup souffert de ça. Donc, ils ont une lucidité, une sorte de verdeur quand même, qu'on peut tout à fait ranimer dans le sens de l'élan si on reconnaît que leur lucidité est juste et que ce qu'ils ont vu faire par une génération qui s'est mise à aller de plus en plus vite, à travailler de plus en plus, à chercher toujours plus, et à aller vers un culte de l'insatiabilité qui est que si on peut ça, on peut encore plus, ça, ils n'en veulent pas. Et finalement, si on reconnaît cette vigueur qu'ils ont à dire non, pas ça, derrière leur apparence de « oh, bouf, ça vaut pas la peine », en fait, c'est quand même chez eux une révolte du « ça ne vaut pas la peine ce que vous faites, vous ». Il y a donc un élan possible.
Ce qui est significatif, on l'a vu en 2005, c'est quand des grands-parents, des parents sortent dans la rue pour manifester avec leurs enfants, pour qu'ils aient du travail tout de suite, pour qu'ils aient un bon salaire tout de suite, pour que sur le plan matériel ça se passe très bien, pour refaire comme eux finalement.
question délicate, effectivement, parce qu'ils ont effectivement eu tellement de facilité hein, dans leur enfance ou dans leur adolescence, grâce à des parents qui ont pourvu à tout, qu'ils peuvent penser que ça, c'est vital et essentiel. De ce côté-là, on peut mettre en cause l'éducation qu'on a donnée au sens où il n'y a eu ni des limites au sens de l'expérience de la frustration qui permet de désirer. Le désir, c'est aussi parce que justement, tout n'est pas facile à avoir. Et là, il y a vraiment eu une erreur d'éducation. De donner trop coupe le désir. Il faut que chaque être se donne, se conquiert. C'est une partie du goût de la vie, c'est de conquérir et d'avoir la force, de l'élan, d'aller vers quelque chose qui n'est pas du tout certain et qui ne va pas être donné comme ça. Vous savez, la manne dans le désert, qui était donnée par Dieu pour la traversée du désert, si on voulait l'accumuler, elle pourrissait. On ne pouvait pas la garder. Voilà, il faudrait presque que dans l'éducation, ce soit pareil, qu'on ne donne pas des choses qui peuvent se conserver, mais qu'il faille toujours les reconquérir.
Aujourd'hui, beaucoup de jeunes adultes ont du mal à s'inscrire dans le temps, dans l'espace. Ils veulent tout de suite, vous le disiez. Alors pour le travail, parfois pour la vie sentimentale aussi, on n'est pas dans le désir là.
Non, parce que le tout de suite, c'est un temps très lié à manger, à consommer. C'est un temps de l'insatiabilité et en fait le temps est tué quand si tout de suite, il n'y a plus de durée, il n'y a plus de projet de ce fait. Il n'y a plus le temps qu'il faut, il n'y a plus à suspendre, à attendre. Du coup, on n'a même plus l'idée que ce qu'on va faire, ce qu'on sème produira plus tard et qu'il faut attendre ses après-coups de ce qu'on fait. Et donc, ça fait vivre dans un temps de l'immédiateté où le sujet n'existe plus parce que l'être se définit par des lieux, un lieu où il habite, où il prend racine, et aussi un temps où il peut s'inscrire dans la durée.
Et ça rend malheureux, ça rend dépressif, ça nous fait tomber justement dans le découragement à ce moment-là?
Oui, parce qu'on ne peut plus se sentir celui qui œuvre dans sa vie. On n'est plus ce qu'on appelle être un sujet, celui qui prend une direction, qui prend les risques. Il n'y a plus de risques non plus. Or, quand même, le goût de la vie, c'est celui du chasseur, du guerrier d'autrefois et celui de l'explorateur, celui de l'inconnu. Et le tout de suite, il n'y a plus la dimension d'inconnu. Donc, il n'y a plus la dimension d'infini non plus. C'est comme si on supprimait la profondeur de champ, comme si on avait un univers complètement plat en une seule dimension.
Repère RCF.
Colette Combe, je rappelle que vous êtes psychanalyste, nous parlons avec vous du découragement, comment en sortir. Vous allez jusqu'à parler d'idéologie du découragement. Alors qu'est-ce que ça signifie?
Par exemple, la façon dont on serine pratiquement dès la maternelle qu'il faut être performant, qu'on met en carte, si on peut dire, le caractère d'un enfant, où on va aller dire que parce qu'il bouge beaucoup, qu'il a des dangers d'agressivité débordante, au lieu de penser que s'il est comme ça, il faut lui donner beaucoup d'œuvres à faire, il faut vraiment qu'il ait de quoi mettre son énergie. Ça, c'est décourageant. C'est cerner d'abord les inconvénients d'une personnalité. Ou c'est d'abord dire que, non pas que ça va être passionnant d'apprendre, mais qu'il faut passer le bac et qu'après il faut telle et telle chose, tel ou tel diplôme. Et puis que malgré tout, on dit le contraire, puisqu'on dit, oh, mais avec des diplômes, on ne travaille pas.
Et on n'arrive plus à rien faire.
Et donc c'est vraiment, on a une pensée paradoxale. Fais ça, c'est vraiment important, travaille, mais n'y prends pas forcément goût, l'essentiel c'est le résultat. Et puis une fois que tu as le résultat, ben il n'y a rien. c'est pas ça qui va permettre d'aller dans la vie. Donc c'est vraiment une culture de mort. Ou à moins qu'on ose penser, nous, en tant que génération adulte, qu'on tue de cette façon nos jeunes générations, qu'on les envoie pas à la guerre de 14, qu'on les envoie pas au service militaire, mais qu'on les tue d'une autre façon. Pourquoi est-on arrivé à ce paradoxe, nous, alors qu'on a vu s'effondrer toutes sortes d'autres idéologies, on en a créé une qui est franchement pas meilleure, finalement, hein. Donc, de toute façon, des idéologies, il faut toujours les débusquer. Et je crois que ça serait important qu'on donne aux jeunes les moyens de repérer que c'est une idéologie et que ça n'est pas la vérité. Que le monde qui leur est décrit n'est qu'une vision du monde, celle qui domine.
Est-ce que ce n'est pas justement un peu la faute de l'argent, du matérialisme, des petites vues qu'on a finalement et qui ne peuvent pas aider les jeunes à développer autre chose?
Oui, 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 il y a cette culture de mort est liée à cet enfermement, mais pourquoi la génération d'âge mûr ne critique pas, ne reconnaît pas que là, il y a un fourvoiement?
Parce qu'elle-même s'est fourvoyée aussi.
Elle s'est fourvoyée, mais chaque génération se trompe. On peut reconnaître, et il y a encore du temps devant. Ouais, je pense que pour toutes ces jeunes générations, apprenons à les regarder comme nouvelles et non pas à les formater en pensant qu'on a le pouvoir de les faire aller dans une direction ou dans une autre. Je pense que ces jeunes générations, que les générations plus anciennes décrivent comme apathiques, nous étonneront et seront bien, à partir de leur lucidité et de ce courant dépressif, faire quelque chose qui remanie. Parce que la dépression, c'est aussi un moment de remaniement. Et peut-être qu'ils cherchent leur ferveur dans ce mouvement d'abattement au moment d'entrer dans le monde adulte.
Oui, vous parliez à l'entrée de cette émission de cette jeune femme qui avait traversé un moment difficile, dépressif de sa vie. Vous disiez que ça pouvait aider justement à se construire et à toucher la vie. Aujourd'hui, un jeune, par exemple, un adolescent qui traverse ça en tant que parent, comment l'accompagner et l'aider justement à traverser?
Eh bien, penser que ce qu'il a cherché là, c'est sa liberté et le fait de se rencontrer. Et que comme, par exemple, comme elle a eu la chance de ne pas mourir quand elle est passée par la fenêtre, même si elle en a des traces dans les fractures de ses pieds, elle n'en a pas de traces vitales et elle marche bien, même si elle a des cicatrices qui le lui rappellent, que cette liberté de rencontrer le découragement, c'est quelque chose qui peut donner de la profondeur. Qu'on n'a pas à être des happy few, heureux tout le temps. Ça n'existe pas d'ailleurs. Donc,
Mais a-t-on le droit aujourd'hui d'être... justement, pas forcément heureux,
de traverser
triste,
le désert.
De traverser
oui.
le désert. Alors, les jeunes entre eux, les jeunes par rapport aux adultes, est-ce qu'on se donne le droit de ça?
Non, il y a quelque chose comme une honte à traverser cette étape, comme s'il ne fallait pas le dire et s'il fallait montrer une vision du monde édulcorée où il y aurait une sorte de pilule du bonheur. C'est quand même pas du tout la réalité. Pour quelque individu que ce soit, ça n'est pas la réalité. Et moi, je vois quand je dis pour la première fois à quelqu'un que l'angoisse est signe de bonne santé, ça veut dire, tiens, il y a un conflit. C'est un signal.
De vie.
De vie. Que donc, il n'y a pas de raison de prendre un tranquillisant quand on a de l'angoisse. On va apprendre à comprendre et à connaître ça. On n'en prend que quand l'angoisse atteint des proportions insupportables. Intolérable, mais ce n'est pas le cas habituellement. Donc ces forces sombres, c'est une phase de nous qui va avoir un ferment créateur si nous ne la fuyons pas et si nous ne voulons pas tout de suite y mettre de la chimie dessus pour l'oublier.
Ah, nous sommes les champions quand même de la consommation d'anxiolytiques en France.
Oui, on ferait mieux de savoir bien utiliser les antidépresseurs pour les moments particulièrement difficiles, par exemple le chômage ou les divorces ou la perte qui est inconsolable, ou parce que ce sont des médicaments bien pensés puisqu'ils remettent en circulation l'énergie entre les synapses, les cellules cérébrales se communiquent mieux entre elles grâce à ce médicament, alors que les anxiolytiques, dans un sens, c'est absurde, si on peut dire, de vouloir lutter contre l'angoisse. Par contre, lutter contre l'insomnie, la fatigue, l'absence de concentration quand on a une dépression grave, là, au contraire, je plaide pour défendre la chimie parce que c'est merveilleux qu'on sache aider quelqu'un à remonter de ça.
Pourquoi, Colette Combe, l'angoisse, c'est important et il ne faut pas en avoir peur et on peut la vivre et la traverser. Et qu'est-ce que ça apporte ?
Bien, ça permet de découvrir que être unifié, être soi, ce n'est pas être tout d'un bloc. Ce n'est donc pas être comme un pays où il n'y aurait que des plaines immenses. On a des creux, des bosses, on a des zones d'ombre où le soleil ne vient pas et on a des endroits très ensoleillés, puis des endroits un peu comme les deux. Et donc le conflit, c'est quelque chose dans la vie psychique d'essentiel. Ça veut dire que on est tiré dans plusieurs sens ou qu'on a plusieurs émotions et plusieurs sentiments par rapport à une situation. Et on peut être unifié quand on accepte que oui, on ne ressent pas qu'une seule chose face à cette situation qu'on vit, et qu'on peut être à la fois heureux de quelque chose et triste en même temps, ou qu'on peut être certain et en pourtant en avoir de la rage quelque part. Enfin, donc que l'unité, c'est la complexité, et que ça n'est pas la platitude.
Alors que quand on nous parle aujourd'hui de bien-être, hein, partout il y a ce mot bien-être dans les magazines, ce serait nous faire croire que bah, justement il y a une plaine, une longue plaine bien étendue, bien plate.
Bien fade, hein, bien fade, un horizon toujours le même, comme la culture extensive où il n'y a pas de bosquet et où il n'y a pas de chemin.
Pas creux. De haies champêtres.
Voilà. Voilà, donc l'angoisse, ben oui, c'est ces réserves de chemin où on ne voit pas bien devant soi et où on sent qu'on se resserre, mais c'est vivant.
Repère, Béatrice Soltner.
Colette Combe, vous êtes psychanalyste. Aujourd'hui, on prescrit beaucoup de petites pilules pour chasser l'angoisse. Vous nous dites que bah, l'angoisse fait partie du vivant. C'est même ce qui nous rend vivants. Quand on est parent, c'est difficile quand même de voir son fils ou sa fille angoissée. Et peut-être qu'on veut chasser, les parents en premier lieu veulent chasser cette angoisse.
Oui, par exemple un enfant tout petit qui vient de se rendre compte que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit ou le geste qu'il a fait ou le heurt a touché, a fait mal, c'est ce qui va lui donner envie de revenir, de réparer, enfin de d'avoir une marque d'attention ou de dire sa gratitude ou de c'est-à-dire de montrer un autre aspect du lien qu'il a avec celui ou celle, son père, sa mère ou son frère ou sa sœur qui avec qui il vient d'avoir un geste ou une parole qui a fait mal. Et donc on revient, et on revient parce que d'abord on a eu un signal d'angoisse, parce qu'on ne voulait pas que ce mouvement brusque. On ne voulait pas que prendre le jouet à l'autre, on voulait jouer avec. L'angoisse au départ, c'est ça. Là, il y a un conflit, parce que l'enfant voulait jouer, puis est-ce que ça va continuer ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il voulait ? Il voulait être avec. Donc, c'est dans ces occasions-là qu'au lieu de dire « Ah, arrêtez de vous disputer », on peut laisser à l'enfant le temps matériel qu'il faut pour faire ce chemin, d'éprouver plusieurs choses contradictoires, d'en être pas bien, et puis de chercher une solution qui le relie à nouveau.
Vous avez parlé de liens il y a un instant. Le lien social, renouer des liens, c'est important pour sortir justement de cette société dépressive ou du découragement tel qu'on l'a défini.
Ah oui, c'est essentiel. On voit bien que c'est des petites choses quotidiennes dans l'ascenseur ou à la sortie de l'école ou au travail qui vont... Dès que quelqu'un se déride et ouvre une relation où il reconnaît la présence de l'autre, même si c'est après l'avoir heurté en passant, le bonjour, excusez-moi, ou toutes ces choses-là, hein, il y a beaucoup de choses dans ces liens au quotidien.
Des liens qui sont quand même souvent inexistants aujourd'hui.
Oui, et le lien, c'est une question de qualité, c'est pas une question de quantité. On n'a pas besoin d'avoir des tonnes d'amis. Quelques bons amis, c'est ça qui fait le charme. Donc c'est pas la quantité.
La confiance aussi, c'est une réalité qui va nous aider à rentrer justement dans le courage tel que vous l'avez défini au début de cette émission, c'est-à-dire l'élan de vie.
Ce que vous dites en employant le mot confiance me fait penser à une phrase d'un psychanalyste anglais que j'aime beaucoup et que beaucoup connaissent, qui s'appelle Winnicott, et qui disait « Je repère qu'il y a la confiance dans la relation quand la personne commence à avoir des images, des métaphores, à imaginer des choses avec des mots qui sont des images. » Et ça, ce que votre question permet de dire, que le lien, le courage, tout ça, ça nécessite la parole. La parole, donc l'écoute. Et un langage complètement... qui serait fait que pour des opérations, comme le langage informatique, qui pourtant est très utile, mais en plus, en moins et en 0 et 1, non. Il nous faut des adjectifs, il nous faut de la chair dans le langage, des mots qui nous font rêver, qui nous font imaginer.
Et peut-être qu'on a à réapprendre à parler et à écouter.
Oui, le courage renaît tout de suite quand le mot est juste. Et le mot juste, c'est un mot comme ça qui prend ses racines dans des générations et des générations avant. Parce qu'on va voir plein d'images comme si on habitait encore à la campagne, souvent. Et tout à l'heure, on a parlé des haies. Les images, elles naissent beaucoup du contact des hommes avec la nature, donc de nous vivant au milieu de tout le reste qui est vivant. Avoir de la force d'âme, c'est avoir du courage, c'est avoir des choses qui nous animent. Or, le monde autour de nous s'anime. Tous les matins, par exemple, avec des oiseaux. Donc, on peut puiser dans ce monde à foison pour la parole.
Encore faut-il en avoir conscience. Mais là, c'est l'affaire de toute la société.
Oui, apprendre à, non pas à être dans le visuel au sens éclaboussant ou éclat ou extrême, mais à regarder des choses toutes simples, qui ne coûtent pas, qui ne sont pas sensationnelles.
Mais c'est un chemin solitaire, parce qu'on va à l'encontre, là, d'un rouleau compresseur qui nous impose autre chose.
Oui, 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 c'est pour ça que finalement, parler du découragement, c'est un plaidoyer pour une sorte de résistance, pas passive, mais activement lente et déterminée contre cette... ça n'est pas une culture, j'allais dire contre cette culture, ça n'est même pas une culture, c'est une anticulture, hein, c'est inhumain. Alors c'est vrai que pour les générations qui ont mis en place... Et j'en suis, cette aisance qui fait qu'on ne craint pas le froid, et on craint quand même le chaud, mais pas trop encore. Qu'on ne craint pas pour notre vie, ça paraît merveilleux, mais dans le fond, on risque presque de se déshumaniser.
De se dévitaliser, oui.
On est trop hors du vivant et de la nature. On se robotise. On se rend pas compte. Je donne un exemple. Notre travail des femmes, notre liberté conquise. Mais ça a été merveilleux quand on l'a conquis. Mais maintenant qu'elle est là, on peut regarder quelle vie difficile c'est. Une vie d'épouse, de mère et une vie de travail bien remplie qui a quelque chose comme un esclavage. Et ce matin, je racontais à l'ami de mon fils... combien il était un petit garçon qui parlait beaucoup. Et même avant le langage, il parlait beaucoup. Et elle était très étonnée parce qu'il ne parle pas beaucoup maintenant qu'il est adulte. Et il m'a regardée, il m'a dit « Mais tu ne m'écoutais pas quand tu rentrais du travail. Tu avais écouté toute la journée, tu ne m'écoutais pas, alors j'ai arrêté de parler. » Voilà, il faut accepter aussi les choses comme ça. Mais avoir le temps, plus de temps, c'est une des choses les plus précieuses pour les futures générations.
Colette Combat, grand merci. À bientôt sur RCF.
Merci.